Dans ce deuxième épisode, nous retrouvons les habitants du 19 rue de Tivoli dans les jours qui suivent l'explosion du 9 avril 2023. Si tous ont en commun d'être locataires et partagent le même bailleur, chacun a sa propre histoire avec l'immeuble et le quartier. Certains sont nés à Marseille, d'autres ont emménagé récemment dans ce coin du Cama, un quartier tranquille à deux pas de la Plaine et du cours Julien. La plupart ne se connaissent pas, pourtant ce drame va les rassembler, les pousser à s'entraider et peu à peu à former une petite communauté soudée face à l'épreuve. Retour à Tivoli, une série documentaire de Maxime Grandbert. Épisode 2, les lignes de faille, avec les témoignages de Julie, Étienne, Florian, Myrtille, Florent et Alexandre, réalisé entre avril et septembre 2024, un an après l'explosion.
Alors effectivement, on ne se connaît pas. Il y a des gens dans cet immeuble qui se connaissent très très bien, par contre, qui ont une très longue histoire d'amitié même ensemble. Les voisins du quatrième, Sylvie et Étienne se connaissent depuis au moins plus de 20 ans ou au moins 20 ans.
Julie, entresol droite.
Donc il y a vraiment de fortes histoires, et là vraiment deux quartiers entre eux. Et puis après, il y a des gens, moi je ne suis pas forcément même la plus récente, il y a encore plus récent que moi dans cet immeuble. Mais finalement, on se connaît très peu les uns les autres.
On était tous locataires, aucun propriétaire, avec la même agence. Donc c'était évident qu'il fallait qu'on s'entende, parce que s'il allait y avoir quelque chose à faire, ça serait forcément en groupe.
Étienne, quatrième étage droite.
On aurait été, comme d'autres immeubles, certains locataires, certains propriétaires louants. Enfin, ils n'avaient pas les mêmes rapports. Nous, on savait que même si on n'avait pas nous les mêmes assurances, on avait le même propriétaire dans tout l'immeuble. Pour nous, c'était évident qu'il fallait qu'on puisse s'épauler, en tout cas un temps, certains plus que d'autres, mais que c'était une obligation. Tu ne peux pas gérer une évacuation comme ça, même si il y a quand même des huit morts, c'était à côté de chez nous, enfin je sais pas, c'est bizarre, tu peux pas seul sortir du trauma comme ça.
Je crois que Étienne et Julie en fait avaient mis en place un groupe WhatsApp où ils s'échangeaient des informations.
Florian, premier étage gauche.
Le 12, ils avaient organisé et ma sœur était là, était venue de Paris pendant une journée, et ils avaient organisé comme ça une première entrevue au Champ de Mars, qui est un bar sur la Plaine. Et c'est là que j'ai pu poser un peu des noms sur des visages, quoi, des visages que j'avais déjà vus auparavant, de gens que j'avais croisés soit aux abords de l'immeuble, soit dans la cage d'escalier, en fait, qui étaient mes voisins, quoi. Je crois qu'à la base, il a été vraiment créé dans le but un peu d'échanger des informations, de commencer un peu à penser au volet un peu légal de cette histoire, de qu'est-ce que serait l'après, du point de vue des assurances, du point de vue du procès qui allait être sans doute... qu'elle est sans doute débutée, enfin ce genre de choses-là. Et en fait, je crois que tous, très vite, hein, même dès la première réunion, en fait, on s'est rendu compte que c'était un peu une thérapie de groupe, quoi.
Une fois que l'explosion est passée, après, quand on s'est rencontrés un peu par la force des choses, et puis aussi on s'est rendu compte très rapidement et très étonnamment qu'on avait quand même tous une certaine facilité de langage ou de connexion, qui nécessairement vient aussi de l'explosion et du trauma commun, qui est quelque chose toujours qui lie un peu les gens.
Florent, premier étage droite.
Mais au-delà de ça, il y avait quand même la première fois qu'on s'est rencontrés, je pense, sans avoir aucune idée de quelque part pourquoi on faisait ça, ni pourquoi est-ce qu'on allait se rencontrer, mais de le faire quand même. On s'est rendu compte assez rapidement, au bout de l'espace de deux pastis, ce qui est quand même rapidement bu, qu'apparemment le courant passait assez bien et assez facilement. Et on était tous assez étonnés, donc on a refait une réunion, parce qu'on avait essayé de mettre en place deux, trois petits trucs avec notamment nos propriétaires pour voir comment on pouvait faire des choses et montrer qu'on était tout de suite un petit peu ensemble, donc pour se donner un peu du poids. Et on s'est, je crois, de mémoire, retrouvé deux jours plus tard pour reboire un verre, et puis celui-là a duré... plus que de raison, où tout le monde est reparti assez saoul et plutôt assez le cœur assez léger par rapport à la situation, parce qu'on s'était tous très bien entendus.
Et on va créer, je pense que vraiment, j'ai peut-être un peu droit au but en disant ça, mais quelque part, ça va constituer un sas très important, effectivement, pour les uns les autres. En tout cas, pour moi, c'est une évidence que ça va être un sas émotionnel très important. En plus d'être une prise, vraiment une prise directe sur, entre guillemets, les situations, certains diraient nos destins du moment, mais vraiment c'est ça. Enfin, on a l'union fait la force, et pour le coup, c'est quelque chose qui s'inscrit très vite entre nous, quoi. On va très rapidement écrire ensemble, s'exprimer ensemble et avoir des contacts en notre nom de locataire auprès de notre syndic, etc. Donc, on va faire bloc, en fait, quasiment tout de suite.
En fait, c'était assez marrant parce que du coup, là, ça a commencé ce truc avec le 19, où en fait, tu vois les gens.
Myrtille, troisième étage, gauche.
Et donc, tout le monde avait son petit truc. Et donc, dans les semaines qui ont suivi, tu vois que chez tout le monde, il y a son petit truc qui déconne, quoi. Genre, tout le monde a l'air totalement normal, mais il y a un machin qui est pas totalement, voilà. Donc Florian, il était là, genre, non, mais moi, j'ai absolument aucun problème. Je crois qu'il était avec sa sœur, ou il y avait une femme avec lui, je crois que c'était sa sœur, qui avait l'air très préoccupée. Et lui, il était là, genre, oh non, mais moi, je fais énormément de blagues. Les petits arrêtent pas de me dire, c'est quoi ton problème? Mais en fait, mais moi, j'ai aucun problème. Enfin, franchement, ça va hyper bien. Après, il y avait Étienne qui était, genre, survolté. Il y avait Alexandre qui buvait, genre, 15 000 bières en fumant 15 000 joints avec son fils qui parlait pas. Il y avait, genre, Julie qui était un peu... en mode genre... Ah oui, elle était souvent avec sa mère, donc elle était là, déjà il y avait le truc avec le chien de sa mère, et puis elle était là genre... non, ben moi pareil un peu genre tout va bien. Enfin, en fait, tout le monde, ce qui était drôle, tout le monde était un peu en mode tout va bien, mais chez tout le monde il y avait un truc bizarre, et du coup, moi quand j'ai vu ça, c'est là que ça a commencé, et puis ça s'est répété les autres fois où on s'est vu. Ça m'a fait me dire, ok, toi aussi, tu crois que tout va bien, mais t'es comme eux. Enfin, je savais qu'en fait, moi aussi j'étais là genre, franchement... il s'est passé ce truc, mais en fait, je vais totalement bien. Alors qu'en fait, j'étais complètement à l'ouest, mais je ne m'en rendais pas compte. Et, mais du coup, voyant les autres, je savais que comme tout le monde était comme ça, bah, moi aussi, j'étais sûrement comme ça. Donc ça m'a vachement aidé, je pense aussi, par confrontation. Et voyant les autres, les stades dans lesquels ils passaient, c'est toujours plus facile de voir sur les autres, de savoir que moi aussi, je passais ce stade, et du coup, de savoir aussi un peu où j'en étais. Enfin, je pense que ça... voilà. Et du coup, ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés, quoi.
Je me souviens plus de ce qu'on a dit, de ce qu'on a décidé, de voilà. Mais en tout cas, on sait plus. Je sais pas comment le dire.
Alexandre, troisième étage, droite.
Et puis on s'est revu à Valier. Valier, c'était un peu notre maison, notre lieu de rencontre. Donc on se voyait là. On parlait de nos émotions, de nos ressentis, de comment. Comment ça se passait pour les uns pour les autres, et du coup les relations se sont, on a suivi le relogement de chacun, mais voilà, du coup, et heureusement qu'ils étaient là, parce que je pense, déjà par rapport à ma phobie, à ma truc administratif, ça, je suis très vite débordé, leur présence était vraiment rassurante, ça m'avait vraiment, heureusement qu'ils étaient là.
L'une des premières choses que j'ai faites quand je me suis réveillé, j'ai pas vraiment dormi, mais quand j'ai émergé, on va dire, le dimanche matin, c'était un dimanche quoi, enfin le lendemain de l'explosion, ça a été d'envoyer un message à ma psychologue en texto. Alors bon, peut-être qu'elle m'aurait répondu que le lendemain pour lui dire bonjour, je suis désolé, je viens de vivre un truc un peu particulier, je pense que ça me ferait pas de mal d'avoir une petite séance psychologique, sachant que j'avais un suivi psychologique depuis un certain temps déjà, puis il m'est arrivé quelques trucs pas très drôles dans la vie, notamment le décès de mon père qui m'avait mis un peu mal, parce qu'il était accidentel, que j'avais un suivi avec cette psy que je trouve super. Et moi, je lui ai dit, écoutez, je sais que c'est pas facile de trouver des psys, mais dans quelle mesure est-ce que vous voudriez, vous pourriez en tout cas essayer de recevoir certains de mes voisins, parce que bon, y a du monde qui est traumatisé, il y a du monde qui est pas sensibilisé, comme moi j'ai l'impression de l'être, à ce que ça peut apporter d'aller faire au moins une séance ou deux d'après-choc, pour éviter que ça reste du coup ce qu'on appelle un choc post-traumatique, en fait, qui s'entretient parce qu'on n'a pas bien analysé à sa manière le choc, ou pas bien compris, ou pas bien déconstruit, qu'on reste bloqué sur les trucs, et que c'est ça qui crée des chocs traumatiques derrière, ce qui est tout sauf drôle. Comme moi je la trouve super, j'ai essayé d'encourager tout le monde. Alors d'abord, j'ai essayé d'encourager simplement à consulter un psychologue, et puis moi je suis retourné la voir rapidement la semaine d'après, et du coup j'en ai reparlé, et en fait elle m'a dit, mais si jamais en fait ça peut parler du coup à vos voisins, moi ça me va très bien d'essayer de faire une séance avec eux. Je pourrais pas tous les prendre en charge en thérapie suivie parce que j'ai pas la place dans mon emploi du temps, mais en revanche ce qu'on peut essayer de faire, elle m'a dit, en fait c'est un truc que j'ai travaillé moi dans ma carrière de psychologue, que j'ai déjà eu fait, donc je sais de quoi je parle, pour le coup je peux facilement le mettre en place, c'est à vous de me dire, on peut faire une séance de consultation psychologique en fait commune, où vous serez tous ensemble, qui sera collective, et où ça permet en fait déjà d'éviter le côté... intimidant d'une première séance pour des gens qui n'ont jamais vu de psychologue ou de psychiatre, de faire une première séance, déjà ça peut casser ça parce que vous venez ensemble.
première réaction a été, comment dire, un peu distancée de part et d'autre, dire oui, bon, pourquoi pas. Et puis quand même, dans un deuxième temps, se dire après tout, en même temps, moi je me disais, ben, en même temps, si quelqu'un, si ça intéresse quelqu'un, n'entravons pas cette possibilité, donc allons-y, quoi. Je pense qu'on se l'est à peu près tous dit de cette façon-là, puis on se dit que ça ne nous ferait pas de mal, et puis que ce serait quelque part une continuité et encore une nouvelle forme à donner à ce travail du dire, quoi, enfin, ce qu'on faisait entre nous de façon plus informelle. Et donc on en a vu l'intérêt, en quelque sorte. Pas tous, on n'y est pas tous allés, mais quand même une bonne partie d'entre nous. D'ailleurs, je pense qu'il y en a une ou deux, enfin, je sais pas, qui n'ont pas forcément voulu parler, mais bon, on a été accueillis par cette femme, jeune femme d'ailleurs, très habituée à ce genre aussi de situation, et voilà, donc qui nous a fait raconter les uns après les autres, déjà pour commencer, de façon très, très informelle, mais quand même dans ce cénacle-là de parole, nous a fait raconter la façon dont chacun avait vécu ce moment.
C'était vachement bien, parce que ça a vraiment permis de, à partir des expériences de chacun, de reconstituer l'événement et d'essayer de lui donner du sens. D'essayer de donner du sens à des bruits qu'on avait entendus. Alors, un tel savait quel bruit c'était. Enfin, qui est, d'où ça, enfin. Et donc, du coup, ça donnait, tout à coup, on avait une vision un peu comme une mouche, là, qui donnait un tout à l'expérience parcellaire. Et je pense que c'était un moment fondateur aussi pour le groupe. Maintenant que j'y repense. C'est rare de livrer des émotions comme ça à des gens que tu connais pas. Enfin, mais même avant la séance, enfin, dès le deuxième jour, le troisième jour, quand on s'est rencontrés, on était tout de suite à un niveau d'intime à cause de l'événement. C'est pas un truc général, universel, lié à ces événements de ce type-là, parce que dans d'autres immeubles, ça s'est pas passé comme ça. Il y a des immeubles où ils étaient déjà en conflit, je parlais par être recommandé déjà avant, et ça a continué après l'explosion. Alors c'est vraiment lié à une magie particulière de notre groupe, quoi. Parce que même avec le reste du collectif, c'est pas ça qui s'est passé.
Qui aurait cru que des gens que je connaissais pas deux semaines avant, ou trois semaines avant, je sais plus exactement quand c'était, en fait là on se retrouve dans un truc, faut quand même faire confiance. Moi j'ai jamais fait de séance de psychothérapie collective dans ma vie. Et on va se retrouver les uns après les autres à raconter ce qui s'est passé ce soir-là. Et en fait, chez tout le monde, ça fait écho à des trucs de leur vie personnelle. Enfin, et en fait, tu le vois très clairement, et même les gens le disent explicitement. Et de dire ça devant tout le monde, que tu connais pas très bien, tu leur fais confiance, en fait. Tu signes un pacte que tu leur fais confiance de base, quoi. Et ça produit aussi de la confiance en retour. Et ouais, ça a quand même été très important, je pense, pour souder un collectif et se dire aussi, on va traverser. C'était aussi une façon de se dire à nous tous, on va traverser ce moment ensemble. Enfin, en fait, parce qu'on fait pas une séance de psychothérapie collective comme ça avec des gens qu'on compte pas revoir dans la semaine d'après, quoi. Donc c'était aussi une façon informelle et sans se faire des grandes déclarations d'amour, mais de se dire à tous, on s'apprécie, on s'aime bien, on se fait confiance et on est là et on sera là. Mais tout le monde est quand même assez pudique, finalement, je pense, dans ce groupe. Et donc, personne n'a vraiment prononcé ces mots-là ou dit ces mots-là. Et je pense que c'est aussi pour ça que c'est passé, parce que sinon, ça aurait été trop et on n'aurait pas pu gérer, en fait. Voilà. Et donc ça, c'était quand même très important.
Je pense que ce moment a été effectivement ce moment d'osmose, hein, enfin vraiment bon, est un moment finalement assez rare et un moment qui pour moi rejoint une espèce d'idéal en fait, enfin en tout cas de moment très 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 fusionnel finalement où le grand bonheur existentiel, c'est de ne pas avoir besoin de demander à l'autre la permission de le voir, en fait, ou de ne pas se demander à soi-même si c'est le bon moment, si l'autre est libre, si, etc., si. Donc, quelque part où la sociabilité, en fait, devient fusionnelle et donc il y a cette espèce d'énorme soulagement existentiel, d'un point de vue émotif aussi, émotionnel, que d'avoir cet accès direct, finalement, aux uns et aux autres.
C'était bien que ça existe, c'était important, mais c'était pas ça qui allait me sortir de la merde. J'avais que j'étais mieux avec eux qu'avec mes amis, parce qu'on se comprenait, mais on se connaissait pas. Mes amis, je les connaissais, mais je les comprenais pas. Enfin, tu vois, c'était... Donc là, on se comprenait sur des trucs de façon d'être. Bon, après, une fois, j'ai croisé Myrtille dans la rue, on s'était pas trop vu, on s'était quand même vu quelques fois avant. Et j'étais vraiment pas bien, j'étais en descente de je sais pas quoi. Et donc, on est parti boire un café ensemble, ça m'a fait du bien. Tu vois, j'aurais vu une autre personne, ça m'aurait pas aidé. Somertique, je tombe dessus par hasard avec son vélo, le seul truc qui lui reste. C'était rigolo qu'on allait boire un café, ou je sais plus qu'on a bu un café, c'était en journée. Moi, ça m'a fait du bien, en fait.
Il y a quelque chose, je pense, que les personnes qui n'ont pas vécu l'événement ne pourront jamais comprendre, même si tu leur expliques. Et en fait, tu peux pas leur expliquer parce que c'est pas explicable. Et en fait, nous, on savait. Sans mots, sans expliquer, sans... Voilà, on savait. Tu dis à quelqu'un, ouais, j'ai plus rien, j'ai plus d'affaires, j'ai plus rien, j'ai tout perdu, machin. Il dit, ouais, mais bon, toi, t'as encore envie. Et en fait, c'est insupportable. Je dis, oui, je suis effectivement, par rapport aux 8 qui sont morts, bah, je suis encore en vie. Mais quand même, j'ai plus rien. Et ce sentiment-là, bah, tant que tu l'as pas vécu, je peux pas t'expliquer ce que ça fait avec des mots.
Des gens qui sont incapables de se mettre à ta place, on va dire, et qui te proposent plein de solutions. Tu vas faire ci, ça va bien se passer, t'as qu'à faire un forcing pour rentrer dans ton immeuble, récupérer tes affaires, enfin des trucs, mais mets-toi ton cul en fait. En vrai, pour moi, c'est comme de la condescendance, parce que c'était évident pour eux qu'il fallait faire certaines choses de cette manière pour que je m'en sorte. Sauf que moi, j'étais incapable de voir quelles solutions je pouvais appliquer, et que vraiment, j'avais pas besoin de ce genre de conseils en fait. Non. Comme des fois, on propose un appartement, mais je te laisse parce que je suis pas là pendant une semaine. En fait, non. Je veux une chambre parce que je suis un adulte vieux. Je veux pas être avec des enfants parce que j'ai pas envie de pleurer devant eux. Mais je veux une pièce. Je veux un lit normal, pas un lit d'enfant, s'il te plaît, avec des biberons et des doudous. C'est pas possible. C'est trop la régression. Donc j'avais mes petits critères. Je voulais être au calme, chez des gens calmes, où il y avait pas de fête, où j'allais pas les saouler trop non plus, et parce que j'allais pas rester très longtemps. Mais je pouvais pas. J'étais incapable de savoir ce que je voulais, donc incapable de supporter n'importe quel conseil. Et donc pour moi, pas mal de gens, j'ai des trucs condescendants dans la façon dont ils m'imposaient leur vision de comment je devais régler mes problèmes.
Je pense que le groupe, psychologiquement, il a été indispensable. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression d'aller pas forcément si mal que ça. Après tout ce qui s'est passé, je m'en sors bien, enfin, en tout cas, je crois. Peut-être que je me leurre, mais j'ai pas l'impression. Et je pense que si j'ai pas tort sur ce sujet-là, le groupe, il a été indispensable à cette réparation-là. Je pense que clairement, ça a été un vrai appui. Et c'est un appui qui coûte pas. Parce qu'il y avait quand même quelque chose aussi, je pense, avec nos amis proches, de nos groupes ou nos familles, même, j'imagine, pour tout le monde, que moi, j'ai ressenti, où il y a quand même un moment donné où on a l'impression d'être un poids. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont peut-être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus mal que ce que nous, on peut être actuellement, au 19, sans vouloir mettre de niveau, c'est pas une compétition. Mais... je pense que ça nous a beaucoup aidé. Je pense que c'est sûr que ça nous a beaucoup, beaucoup aidé. Je pense qu'on compte facilement les uns sur les autres aussi. Après, avec, je veux dire, sur une douzaine de personnes, les appétences qu'on a chacun de manière plus directe entre nous. C'est normal aussi qu'il y ait des affinités plus poussées. Mais je pense que clairement, ça a été un truc qui nous a énormément aidé.
Au lendemain de l'explosion, vraiment, en fait, la première interprétation que j'ai eue, donc quand j'ai un peu percuté, machin, c'est que c'est comme si c'est moi qui avais provoqué cette explosion. Enfin, c'était vraiment... et vraiment, je n'étais persuadée... Bon, heureusement, j'avais rendez-vous avec ma psychothérapeute 2 jours plus tard, qui, du coup, m'a un peu permis de recadrer le truc, mais vraiment, c'est comme ça que je l'ai ressenti. En fait, dès le moment où c'est arrivé... jusqu'à voilà, plusieurs jours après, et puis même, ça a mis quand même du temps que cette idée me quitte, plusieurs mois. C'était comme si... parce que je pense que dans ma vie, j'ai l'impression d'être quelqu'un qui provoque sans cesse des explosions. Enfin, c'est une constante. D'ailleurs, en fait, juste après, bon, je me suis fait tatouer un volcan. Enfin, une de mes amies m'a tatoué ce volcan sur le bras, après l'explosion. Et c'est pas un hasard. Voilà, parce que j'ai cette impression que voilà, partout où je passe, il faut toujours que j'appuie sur le truc qui fait qu'après ça explose. Donc j'ai l'impression que je fais que produire des problèmes et des explosions. Et donc là, finalement, quand c'est arrivé, je me suis dit, bah évidemment. Enfin, c'est comme si c'était ma faute que c'était arrivé et que du coup ça faisait plein de problèmes dans la vie des autres et j'étais à la source de cette explosion. Et parce que voilà, ça fait des difficultés aussi avec donc mon ex-conjointe, enfin mon ex-copine, voilà. Et j'étais là, mais... Et même, en fait, il n'y a pas que moi qui interprète ça comme ça, parce que même certains amis m'ont dit, on s'est dit, ça ne pouvait arriver qu'à toi. Et à la fois, c'est drôle, parce que je vois très bien ce qu'ils veulent dire, mais à la fois, c'est pas drôle de me dire ça, parce que bah, j'y crois un petit peu aussi, donc du coup, je n'apprécie pas trop qu'on me dise ça. Donc, il y en a qui m'ont dit, mais dans une vie passée, tu as vraiment, je sais pas, t'as fait pipi sur un cimetière sacré ou quoi, qu'est-ce que t'as fait pour que on en arrive là? Et c'est vrai que franchement, je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. Vraiment, genre, enfin, je recommence ma vie. Je suis en mode, genre, c'est bon. Et en fait, il faut qu'il y ait ce truc. Et en fait, c'est comme si je l'avais appelé, quoi. Enfin, comme si, je sais pas, je pouvais pas juste vivre ma vie. Voilà, enfin, ma vie était stable, machin. Et donc ouais, ça a été vraiment une croyance très forte et assez difficile à faire partir. Mais bon, ça a fini par partir. Mais aussi parce que, par exemple, mes parents, enfin, notamment mon père, ils étaient en mode, ben, genre, gère tes problèmes, quoi. Comme si ce genre de choses, ça arrive aux gens comme moi. Et donc, voilà, bah. Et moi, c'est vrai que c'est ce que je me suis dit. Ce genre de choses, ça arrive aux gens comme moi. C'est pas étonnant.
Quelques mois avant l'accident, j'étais avec une fille qui écrivait une thèse sur les rêves au Moyen-Âge. Et on s'est revus, en fait, après l'accident. Et je lui parlais de quelques semaines avant l'accident, il y avait je me rappelle, j'étais dans le salon et je vais dans la cuisine pour prendre un verre d'eau. Et j'ai failli marcher sur un mono qui était rentré dans l'appartement. Et enfin bref, j'ai appris cette amie qui écrivait une thèse sur les rêves au Moyen-Âge. Elle lisait des manuscrits dans lesquels, avant au Moyen-Âge, il y avait comme ça des choses sur l'interprétation des rêves, quoi, sur le qu'est-ce que signifient les rêves, quoi, sur la signification des rêves. Et il y en a tout un sur notamment les oiseaux, enfin la symbolique des oiseaux, quoi. Elle m'avait cité un passage là en latin dans un de ses manuscrits où il disait que quand un moineau rentre dans un foyer, ça signifie la destruction du foyer, quoi.
Non, il y avait eu dans les trucs un peu on va dire notables, il y a eu l'explosion de la rue Saint-Jacques un mois après notre explosion, qui était je sais pas, voilà, c'est ce qui fera marquer une rue perpendiculaire à la rue Abbé de l'Épée à Paris, alors que nous c'était rue de l'Épée à Marseille, mais perpendiculaire à Tivoli aussi. Donc on peut y voir ça, il y en a qui y voient du complotisme limite, alors qu'ils voient des choses cachées contre la rue Abbé de l'Épée. Moi j'irai jamais jusque là, je comprends pas. Non, après pour moi la symbolique qui est très forte par rapport au sort de cette explosion là, où il m'est rien arrivé, alors que bon, il y a quand même des gens, moi j'habitais pas dans l'immeuble qui a explosé, mais on en parle peut-être des fois moins. En tout cas, c'est vrai que moi, dans mon discours, j'en parle moins parce que je connaissais pas les personnes qui sont décédées. Pas du tout, aucune. Il doit y avoir deux interactions, peut-être, avec le couple de personnes âgées, je crois, du 17, mais c'est tout. Je les connaissais pas du tout, les autres. Ils sont quand même tous morts, probablement, sur le coup. En tout cas, bon, je l'espère pour eux, en l'espace d'un claquement de doigts. Donc, c'est quand même assez, assez dramatique. Mais moi, l'écho, en fait, le plus symbolique que j'ai par rapport à ce soir-là, c'est que mon père était mort littéralement 2 ans, jour pour jour. Vraiment, il est mort dans la soirée du 8 avril aussi chez lui, et d'un accident domestique. Donc c'est vrai que moi j'ai quand même eu un truc, je m'en suis rendu compte le lendemain en me disant, ah ouais, il y a quand même un truc où peut-être on nous en veut un peu, mais je suis pas superstitieux, donc moi j'y vois pas des signes, je vois ça comme un symbole sur le moment un peu bizarre, et puis quelques temps après un peu étonnant, un peu marrant, mais bon, c'est voilà.
Mais moi, je suis un partisan de l'absurde, donc il n'y a pas de signe, machin, c'est de l'absurde. C'est pas absurde parce que peut-être que c'est un problème de mauvaise gestion des canalisations de gaz. On saura plus tard. Mais voilà, c'est. Il n'y a pas de sens. Enfin, objectivement, ça n'a pas de sens. Après. Qu'on se sente, qu'on se doive d'en mettre un, c'est autre chose, mais voilà. Moi, je vois pas de sens à ce qui s'est passé, c'est tout complètement absurde.
Et puis après, moi, un des trucs que j'ai proposé, où je pense que quand même, enfin, ça a quand même fait du bien aussi à tout le monde, c'était, donc moi, j'avais, en fait, quand je suis sortie le soir, j'avais ma banane. sur moi et que je, d'ailleurs je, depuis un an je le mets tout le temps sur moi. Enfin, je n'arrive pas à ne pas la, je peux pas sortir sans cette banane, même quand je vais au travail alors que c'est pas très travail, je la mets quand même. Et j'avais mes clés de mon appart en fait dans ma banane, et c'était des clés, il y avait plusieurs clés, donc c'était un peu lourd. Et en fait, au bout d'un mois et demi je pense, ou deux mois, enfin je sais plus quand exactement, mais il faisait déjà un peu chaud, j'étais là, mais je vais pas me balader avec ces clés pendant 6000 ans, enfin c'est stupide qu'ils n'ouvrent plus aucun immeuble, donc j'étais là, il faut arrêter. Mais j'arrivais pas à les laisser à l'hôtel, je pouvais pas sortir sans mes clés, comme si j'allais rentrer chez moi. Et donc j'ai dit aux autres, bon, on va faire une cérémonie des clés. Donc ils ont un peu rigolé et tout, mais en fait au final ils l'ont fait. C'est aussi ça qui est cool dans ce groupe, c'est que, enfin, je pense pas que j'aurais osé proposer ce genre de truc à des gens que je connais pas très bien, parce que tu vois, tu te mets un peu à nu, enfin mine de rien, même si on le propose un peu en rigolant, bah les gens ils savent que c'est quand même un vrai truc. Et les gens ils sont pas là genre oh, mais c'est quoi cette idée de merde, non, ils le font avec toi. Et donc même si peut-être pour eux ça a pas été si important que ça, j'en sais rien, parce qu'on n'en a pas forcément reparlé, mais en tout cas pour moi ça a été important et ils m'ont accompagné là-dedans et ils l'ont fait avec moi. Et du coup en fait on est allé à la mer vers les légionnaires là, et donc on a ramené nos clés et chacun a jeté, enfin il n'y avait pas tout le monde parce que tout le monde n'était pas à Marseille machin, mais chacun a jeté une clé dans la mer de son appartement. Bon, moi j'avoue j'ai jeté mes doubles de clés, hein. j'ai un peu triché, j'ai gardé les autres, mais en tout cas ça m'a permis de poser mes clés, pas le double mais les clés initiales, à l'hôtel et de les laisser et de plus les porter avec moi et de lâcher un truc. Et donc, et voilà, Julie, elle était là, Florent, il était là, enfin, Étienne, il était là, genre, on était plusieurs, puis après, on s'est baigné, du coup, c'était aussi, on a fait un pique-nique, c'était sympa, enfin, voilà. Et pour moi, ça a aussi été important que, voilà, il fasse ça avec moi. Et qu'on fasse ce truc qui, moi, j'avais besoin d'une cérémonie d'adieu, enfin, un peu comme les enterrements ou les trucs comme ça, ou les crémations, peu importe, mais j'avais besoin d'un truc où on, voilà, ritualiser un peu quelque chose pour passer à une étape d'après, quoi.
Je sais pas quel sens ça, en fait, mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'être ensemble, en fait. Je sais pas quel sens ça, de jeter ensemble ces clés au niveau... comme si j'accédais pas à ce niveau symbolique, je sais pas. Mais je sais que c'est bien de le faire. Ça fait du bien de le faire.
Je pense que symboliquement, par exemple, pour quelqu'un comme Myrtille, qui avait perdu énormément de choses, puisque quand même la moitié de son appartement était tombée dans le vide, donc il y avait beaucoup de pertes aussi, du coup. Et c'était des absences qui pesaient aussi, quelque part. Donc du coup, il y avait aussi se libérer de ce fantôme, et c'était plus un fantôme, en fait, je pense. Ouais, je pense que ça avait plutôt cette consistance-là dans l'obsession. Bon, par ailleurs, nos portes étaient plus ou moins toutes ouvertes, hein, faut bien le dire. Donc, de toute façon, clé ou pas clé, très honnêtement, et c'est ce qui peut être, puisqu'on est, on est quand même jamais fait que d'une seule pièce, enfin, on n'est jamais fait d'une seule pièce, donc c'est aussi peut-être ce qui a rendu ce geste aussi léger, c'est que précisément, on n'avait plus de porte qui tienne ou qui vaille. Donc, jeter ses clés était aussi assez simple.
À ce moment-là, déjà, il s'était passé quand même quelques temps depuis l'explosion, et moi, j'étais déjà assez ancré dans le collectif Tivoli 9 avril, qui du coup était en train de se former, de se structurer réellement en association déposée, en fait. Donc on partait sur un truc sérieux. J'avais commencé à pas mal bosser, je voyais bien un peu l'ampleur du combat à mener, et moi, dans ma manière à moi d'apprendre les choses, si je bazardais les clés de chez moi, ça voulait dire que c'était bon, j'avais enterré, enfin pas enterré, mais que je laissais le couler le truc. Vu que je me suis clairement positionné depuis le début et je suis toujours dans une espèce de position de teigne par rapport à ça, de dire tant que je les aurais pas, qu'on n'aura pas eu un gain de cause, peut-être en deçà de la réalité de ce qu'il faut, mais qu'on n'aura pas eu de gain de cause, moi je ne lâcherai pas mes clés et je ne lâcherai pas l'affaire. Puis il y a une espèce de symbolique de... Je pense aussi dans mes clés de la bêtise de l'organisation humaine parfois, parce que mon appartement, du coup, moi j'avais fermé à clé à double tour en partant, en me disant justement... je sens que je ne vais pas revenir tout de suite s'il n'y en a pas un qui veut me piller mon appart. Si je ne suis pas là, en tout cas, il ne passera pas par la porte. Sachant qu'effectivement, en fait, on s'est fait piller notre immeuble. Tout le monde, tous les appartements de la plupart de mes voisins ont été complètement pillés. Moi, du coup, je n'ai pas jeté ma clé. Si je jette cette clé, je pense que ce sera plus symbolique pour moi de la rendre, quand même les clés n'iront plus dans la bonne serrure, parce qu'elle aura probablement été changée d'ici là, de la rendre quand même à mon bailleur le jour où je casserai le bail de cet appartement, ou de dire justement, peut-être après tout, peut-être que la porte elle va être sauvée plus ou moins, et qu'ils vont pas changer la serrure, et de dire, non mais par voilà, par symbolique, de dire, bon ben bah, hop, ben bah, voilà, j'ai bien fait, je les ai pas achetés, ou alors ce sera vraiment, soit quand je pars, ou alors même si peut-être que si je reviens dans cet appart-là d'ici là, ce sera quand on aura fini la bataille, en fait, la bataille juridique avec les assureurs et ce genre de trucs-là, et qu'on aura eu gain de cause. C'est, pour moi, la symbolique, elle est là aussi. Je pense que je vais être recyclé le jour où ce combat-là sera terminé, ce qui n'est pas prêt d'arriver a priori.
C'était Les Lignes de Faille, le deuxième épisode de Retour à Tivoli, une série documentaire de Maxime Grandbert. Merci aux habitants et aux habitantes du 19 rue de Tivoli, Julie, Florian, Alexandre, Sylvie, Florent, Myrtille et Étienne.